à la disparition de Manu Dibango en mars 2020, cette idée qui nous trottait déjà à l'esprit est devenue une quasi-urgence parce que non seulement le grand Manu était parti à cette période-là, mais quelques mois après, il y a Claude Naam et un ou deux autres artistes camerounais qui nous ont quittés. Et derrière Manu, ça donnait l'impression d'un désert qui avançait sur la musique camerounaise. Et quand on s'est intéressé à Manu, il y a deux choses qui nous ont frappés. La première, c'est que tout nous ramenait à Saul Makossa. L'immense carrière de Manu était régulièrement résumée à Saul Makossa. Et deuxième chose, quand on regarde la musique camerounaise, il était présent à la plupart des étapes où la musique s'est développée. Donc, parler de Manu, c'était un peu parler de la musique camerounaise. Donc, l'un dans l'autre, voilà comment l'idée est née. Et donc, l'idée de choisir 100 titres, on s'est dit, si on peut faire l'exercice de ramener Manu Dibango à une chanson qui peut très bien résumer le basculement qu'il y a eu avec Saul Makossa, où le Makossa s'est affirmé, où ça a été, paraît-il, l'ancêtre de la world music. Donc l'exercice avec Saul Makossa pouvait-il être appliqué à d'autres chansons chez certains auteurs? Est-ce qu'on pouvait se contenter de 100 chansons pour donner une sorte de quintessence, un résumé essentiel de la variété camerounaise? C'est l'hypothèse de départ que nous avons prise et visiblement, c'était pas une si mauvaise idée. Il y a des millions de chansons au Cameroun, mais ces 100 chansons avaient vocation à représenter un peu les autres. C'est pour ça qu'on les a appelées titres clés.
Cette catégorisation des musiques camerounaises est nécessairement basée sur des choix arbitraires. Quels sont les paramètres qui ont présidé à vos choix?
Il y avait un ou deux paramètres qui me semblaient incontournables. Déjà, ce sont des chansons emblématiques, c'est-à-dire des chansons que les Camerounais connaissent et que les non-Camerounais pourraient reconnaître. Claudicia, qui fait la préface du livre, a confirmé cette théorie où il disait que la plupart de ces tubes ont été des cartons aux Antilles. Donc, premier critère, que ce soit des chansons emblématiques. Deuxième critère, que ce soit des chansons qui permettent de résumer, de raconter un moment décisif de la carrière d'un auteur ou de l'avancement d'un courant musical. Si je reviens sur Saul Makossa, par exemple, c'est vraiment la naissance de la world music. C'est le moment où Manu Dibango bascule dans la dimension qui a été la sienne jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, voilà, ce genre de détails qui donnent une narration assez pertinente de la carrière, du travail en studio et du courant musical en question. Voilà les critères qui ont été appliqués pour qu'on fasse ce classement-là. Certaines chansons avaient plus d'éléments, plus d'anecdotes que d'autres, plus de chair, on va dire. C'est pour ça que ces chansons-là ont été retenues.
Alors, on reconnaît le Cameroun comme étant le pays du Makossa. En dehors du Makossa, quel autre nom pouvez-vous affubler à votre pays, si vous pouvez seulement en citer deux tout de même?
Oui, le Makossa a d'abord fait connaître le Cameroun musicalement, mais le Makossa a une particularité, et ça aussi c'est lié à la personnalité de Manu Dibango, qui était le directeur artistique de ce qu'on appelait les Flair musicales du Cameroun en 1982. Ce projet avait pour vocation de faire connaître les autres courants musicaux qui étaient autour du Makossa, parce que le Makossa était vraiment dominant, était souverain en ce temps-là, mais ce projet Flair musical a permis de faire exister le Bikuti, le Gumba Galewa du Nord, le Njang du Nord-Ouest. Il y a eu pas mal de rythmes, mais parmi ceux qui progressivement se sont affirmés, il y a le Bikuti du Centre-Sud, il y a le Bensikin des régions des Grassfields, et puis il y a toujours eu la Siko, qui est une sorte de cousin du Bikuti, mais la Siko, dès le début avec Jean Bikoko Alada, la Siko a toujours été un courant musical très fort au Cameroun.